mal tout de même les échecs. Kenny comprend son poulain, bien entendu. Et pendant tout le trajet entre la Big Apple et Long Beach, il a cogité dans sa Ford Mustang qui fait autant de bruit qu'un tracteur. Il a peut-être trouvé la solution pour se relancer. Et alors que Joan vient de briser un énième vase dans un coup de sang contre les producteurs machistes et véreux qu'elle ne supporte plus depuis longtemps, il se permet de lever la main comme pour interrompre le flot de colère infernale qui se déploie devant ses yeux. Lui, il est habitué, mais croyez-moi, vous seriez ébahi. C'est alors qu'il expose à l'artiste son raisonnement, et chaque phrase qu'il prononce fait mouche. À la troisième, Joan Jett s'est assise dans le fauteuil. À la cinquième, elle écoute attentivement. La solution qu'il propose est audacieuse, casse-gueule, particulièrement dangereuse et surtout novatrice. Tout pour plaire à notre starlette en herbe qui rêve d'enfin se faire un nom qui lui est propre. Elle va fonder son propre label pour s'autoproduire. Jamais dans l'histoire du rock, une femme n'avait tenté ce coup de poker. Encore une fois, Joan enfile son perfecto de pionnière. Après tout, c'est celui qui lui va le mieux. Ainsi est né le Black Heart Label. Oh, bien sûr, c'est une minuscule structure à ses débuts, mais pleine d'enthousiasme. Joan est portée par cette idée d'être enfin totalement indépendante. Les prémices de cette aventure sont fragiles, difficiles. Le petit label produit et fait fabriquer ses propres disques, qui sont vendus presque à la sauvette à la fin des concerts, dans le coffre de la nouvelle Cadillac de Jett. Mais l'aventure est excitante. C'est un euphémisme. Et les deux amis y croient dur comme fer. Un groupe se monte, dans lequel Joan est entourée de mecs jouant des instruments différents. Elle porte la voix et la guitare rythmique avec sa Gibson Melody Maker de couleur blanche. Ce modèle deviendra sa signature absolue. L'année précédant la création du label, Joan est allée à Londres enregistrer trois titres, dont une reprise d'un groupe peu connu, The Arrows. En 1976, lors d'une tournée avec les Runaways en Angleterre, elle découvre à la télé le titre I Love Rock and Roll, trouve les harmonies valables et décide d'en faire une reprise. Son nouveau groupe, Joan Jett and the Blackhearts, est crédité et un clip sort en novembre 1981. Il va totalement renverser l'opinion et enfin faire de notre rockeuse une star à part entière. Laissez-moi vous dresser le tableau. Un bar de Londres, pas super vivant, du noir et blanc rendant l'image presque floue et un jukebox qui passe son titre Bad Reputation. Là, un jeune homme qui dandine la tête. Et puis, la rue et Joan Jett, mâchant un chewing-gum vêtu totalement de cuir, qui rentre dans le bar comme un shérif. 8 coups de caisse claire pour entrer dans l'histoire et l'un des riffs les plus célèbres de l'histoire du rock démarre. La recette du succès made in Joan Jett, une nouvelle fois. Tous les groupes de rock amateurs ont déjà joué cette musique en ouverture de concert, tant c'est gage d'un succès et d'une communion avec le public. Cette reprise vient fixer avant l'heure l'avènement de la célébrité aux États-Unis d'un style bien né en Angleterre, le punk, matérialisé par un autre quatuor aussi déjanté que malsain, les Sex Pistols. C'était pas un hasard d'ailleurs si en 1979, lors du premier enregistrement du morceau, deux membres de ce groupe iconique l'ont accompagné pour jouer. Encore une tous les cas, Jet ne laisse pas tomber son perf de pionnière. Pour le grand plaisir de son producteur qui fait rentrer avec ce disque une coquette somme d'argent dans les caisses et surtout qui installe Johan au cœur du panthéon du rock'n'roll. À coups de riffs et de solos de guitare, son groupe et elle se perfectionnent, enchaînent les tournées et les salles combles. La page des Runaways est définitivement tournée, même si, précisons-le à toute fin utile, en 1982, la star n'a que 24 ans. Toutes les portes lui sont ouvertes et la voie du succès semble toute tracée. Pendant quelques années, en effet, ses disques tournent à plein régime, entrent dans les charts et bousculent les fans du genre. Finalement, ravi de voir arriver dans la cour des grands la jeunette et sa bande de mauvais garçons aux cheveux gominés. Son style de musique, d'ailleurs, est très particulier. Punk rock, certes, mais elle puise également, à compter des années 84 et 85, dans l'univers glam, tant dans les riffs que dans l'allure vestimentaire. Kiss et les autres n'ont plus aucun secret pour elle. Mais rien n'est jamais acquis, vous le savez bien. Le destin est parfois cruel ou remet à leur place les plus confiants. Ou peut-être se laisse-t-elle griser par le succès. En tous les cas, Jet négocie mal la prise d'un virage musical décisif et va connaître, à l'instar d'autres groupes légendaires, une période de vache maigre. Réussira-t-elle à rebondir? Voilà une autre histoire. Vous vous souvenez de l'adage ? Ce n'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage. Leur hache qui nous occupe se penche sur le destin d'une furie du rock américain. Johan, nous sommes à la fin de l'hiver de l'année 2003. Long Beach, état de New York. La propriété de Johan Jett est bien calme. Il y règne une atmosphère de quiétude et de paix retrouvée. La roqueuse est sur son perron, fume une cigarette. Elle a dans la main la dernière édition du magazine Rolling Stone. Ce sont ses acolytes des Black Hearts qui lui ont apporté ce matin, excités comme des gamins par ce qu'ils viennent de découvrir. Ils ne sont pas restés pour faire la fête. Ils savent que Johan est du genre casanier en ce moment. Ah, elle a changé quelque peu la tôlière du punk américain. Elle est devenue plus recluse, plus calme, plus en paix avec elle-même aussi. Une phase de la vie qu'on appelle peut-être la résilience. Elle ne sait pas vraiment. Dans tous les cas, elle est fière de ce qu'elle vient, elle aussi, de parcourir. David Frick est un journaliste du rock parmi les plus connus et les plus respectés du milieu. Et le magazine Rolling Stone, pour lequel il écrit, est une bible pour les fans du genre. La grande annonce de cette année était la sortie pour la première fois d'un classement des meilleurs guitaristes de tous les temps. Un top 100, parmi lequel Angus Young, Richie Blackmore, Keith Richards ou Jeff Beck allaient se tailler la part du lion. Hendrix est en tête, rien de plus normal et de plus attendu. Ce qu'il est moins, c'est que Johan figure dans ce top 100 à une très honorable 87e place, devant d'autres rockstars tout aussi méritantes. Deux femmes seulement dans ce classement qui fait du bien, et elle y est. C'est enfin la reconnaissance de la part de la profession. Elle a beau dire qu'elle s'en fout depuis des années, lorsqu'on enlève le vernis qui recouvre son perfecto, elle est touchée au plus profond d'elle-même. Elle est passée par des moments tellement galères tout au long de sa carrière. C'est aussi ça le destin d'une pionnière. Fatiguée de toujours devoir se battre, Johan Jett avait fini par lâcher du lest. Musicalement, les 90s n'ont pas été une réussite, elle le sait bien. Elle et son style sont tombés dans un marché de niche qui la condamne à ne plus pouvoir exploser, comme elle a pu le faire avec I Love Rock'n'Roll ou I Hate Myself for Loving You. Le train du temps qui passe et qui apporte avec lui la modernité et le changement. Être punk, ce n'est plus tellement à la mode en ce début des années 2000. John le sait bien, mais pas de problème. Ce n'est pas pour autant que c'est l'heure de la retraite. Bien au contraire, rester fidèle à soi-même tout en s'ouvrant aux nouveaux venus. Voilà la marche qu'elle a décidé de suivre. Et écrasant sa cigarette dans son cendrier, où un diable est sculpté dans le bois, elle repense à sa traversée du désert, avec fierté et émotion. La fin de la décennie des 80s, pourtant, s'est terminée pour elle en trombe. L'album Up Your Alley est un vrai succès critique et commercial. Le single de l'album, I Hate Myself for Loving You, est une véritable bombe. 8e place du Billboard américain, 3e morceau du Jet à atteindre le top 10. Le dernier aussi. Le précédent, déjà, datait de 1982. Il lui aura fallu 6 ans pour retrouver la voie du succès. Une éternité dans ce monde de requins qu'est la musique. Cette piste, en tous les cas, sera tout de même nommée aux Grammy Awards l'année suivante. C'est là une belle consécration. Tout le monde pense alors que le renouvellement de Jet est en marche et qu'elle s'apprête de nouveau à cartonner. Hélas, la vie est parfois joueuse et l'album suivant, qui sort en 1991, est un semi-échec. De ceux qui sont peu supportable, dans le sens où il est qualifié de fade. Et puis plus rien, pendant 3 ans. Un nouveau disque sort en 1994, et là, le public n'est plus du tout au rendez-vous. Alors, condamné à l'oubli, Joan Jett, musicalement en tous les cas, sur le marché des nouveautés, cela en prenait bien le chemin. Mais si vous pensez qu'elle allait se laisser abattre, c'est que vous avez mal cerné le personnage. Elle va simplement changer de casquette et réenfiler son fameux perf de pionnière. Depuis toute petite, Joan Jett rêve d'être actrice. Dans les années 1980, elle a déjà connu une période de vache maigre qu'elle a su transformer en opportunité. Elle a eu l'honneur de pouvoir partager l'affiche avec Michael J. Fox dans le film Light of Day, qui provoque de bonnes réactions sur le marché des sorties US et dans quelques pays d'Europe. L'acteur dira plus tard le plus grand bien de la performance de la rockeuse, et Jett est ravie de cette nouvelle expérience, somme toute très différente de tout ce qu'elle a pu faire avant. La bande originale, écrite par Monsieur Bruce Springsteen, s'il vous plaît, est un véritable succès et permet aux deux stars de pouvoir se rencontrer. Son creux musical des années 90 ne lui donne pas cette fois l'occasion de revenir au cinéma. Son profil plaît déjà moins, et c'est alors vers une toute autre activité que la star va devoir se tourner, la production. Son label des Black Arts devient une plateforme sur laquelle de nombreux artistes de la nouvelle scène punk, rock et même jusqu'au R&B vont pouvoir s'exprimer et trouver chez elle un véritable soutien. Elle se surprend à apprécier le contact avec les jeunes artistes en quête de reconnaissance. Ses apparitions sur le marché du disque en son nom propre, donc, diminuent doucement. Ce n'est qu'en 2004, rendez-vous compte, 10 ans après la sortie de son dernier disque, qu'un nouveau CD sort dans les bacs. La plus longue période de sa carrière musicale entre deux nouveautés. Pour autant, Joan Jett n'a pas abandonné l'idée de jouer sur scène, bien au contraire. Et son aura dans le milieu du rock'n'roll est telle qu'on fait toujours appel à elle pour des festivals ou des collaborations. En 2002, elle vivra une expérience assez extraordinaire qui va lui redonner un formidable élan et dans laquelle elle va s'illustrer. Entrée en guerre en Afghanistan depuis déjà de longs mois, les États-Unis ont besoin de remonter le moral de troupes qui ont le sentiment de s'enliser dans ce pays du Moyen-Orient. Le gouvernement américain décide donc d'organiser pour ses soldats des concerts et des apparitions de stars du pays. Et en 2002, parmi les premières, c'est Joan qui grimpe sur la scène de concert du camp de base US. Et au-delà de sa performance, c'est sa gentillesse et sa proximité avec la troupe qui interpelle. Les soldats sont ravis, puisque la plupart des stars qui sont déjà passées avant sont reparties juste après leur show, sans prendre le temps de parler avec les militaires de la base. Joan, elle, fait le choix de s'installer derrière une petite table pliante et d'échanger avec eux, distribuant des photos et signant des autographes pendant un long moment. Pas mal pour une punk, non? Elle décide également de s'ouvrir aux collaborations scéniques avec d'autres artistes. En 2010, elle assure les premières parties du groupe Green Day, alors au firmament d'une popularité qui s'étiole, puis produira le même type de show pour le groupe Aerosmith durant toute sa tournée au Canada. Si ses sorties disques sont beaucoup moins attendues, la plupart des festivals du genre se font toujours un plaisir de l'accueillir. C'est notamment le cas du Hellfest, qui la place parmi ses têtes d'affiche en 2018. Consécration des consécrations, elle est introduite au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2015. La reconnaissance de décennies de combats musicaux et sociétaux. Aujourd'hui âgée de 64 ans, Joan Jett continue de traîner sa guitare sur les scènes du monde entier sans vraiment ralentir la cadence. Ambassadrice de l'association PETA pour une éthique dans le traitement des animaux, elle est une végétarienne de longue date et se bat avec vigueur pour le droit des animaux. Sa vie, au fond, s'est sans cesse construite autour d'engagements multiples, sans jamais oublier l'essence même du rock'n'roll. Et je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation de celle qu'on surnomme la Queen of Rock'n'Roll, parce qu'elle a donné du sens et ouvert la voie à de nombreuses formations féminines au cours de sa carrière, riches et diverses. Un soir, sortant de concert, un journaliste l'interpelle sur sa manière d'être en symbiose avec sa guitare. Tac au tac, elle lui répond dans un sourire. Ma guitare n'est pas un objet, pas une chose. C'est une extension de moi-même. C'est ce que je suis. Je crois que beaucoup de musiciens pourront comprendre cela.